encore de 2022, Michel Bonnet. Bonjour à toutes et à tous. Nous continuons nos promenades médiévales autour de Raymond VII ou avec Raymond VII autour de Cordes, comme vous voulez. Et alors aujourd'hui, nous allons aller assez loin. Raymond va nous amener très loin de Cordes. Il va nous amener à Rome parce que nous allons réfléchir à un événement important de l'histoire européenne, déjà, et de l'histoire de Raymond VII, encore plus, j'ai envie de dire, que cet événement, ce fut le Concile de Latran, organisé à Rome en 1215. Et qu'est-ce qu'il. Ça nous permet de comprendre un peu l'environnement religieux de la fondation de Cordes, d'une part, au XIIIe siècle, mais surtout, ça nous permet d'approfondir l'influence que l'Église, à travers le Concile, a eu sur Raymond VII. Et donc, ça nous permet de mieux comprendre Raymond VII. Rappelons d'abord un peu comment ça se passe, où est-ce qu'il en est, le jeune Raymond, hein, c'est Raimondet. Et on sait que, bon, il est le fils du comte de Toulouse, et à cette époque-là, il a 17 ans. Donc 17 ans, ça veut dire que dans les habitudes et les lois de l'époque, il est adulte. En fait, il a été émancipé, comme on dit, par son père, c'est-à-dire reconnu adulte. Il a été reconnu comme futur héritier du comte de Toulouse. Il est reconnu comme ayant la permission de porter des armes et donc de se battre éventuellement, puisqu'à l'époque, on n'avait pas le droit de porter une arme, il fallait avoir une raison particulière et une permission particulière. Tant que là, lui, en permanence, il peut être armé et il peut se battre. Et puis, il peut également passer un certain nombre d'actes officiels, par exemple, faire une donation à une abbaye, des choses comme ça, quoi. Il a un sceau qui va lui permettre de montrer qu'il est responsable de son existence. Donc vraiment, bon, c'est un adulte. Il est encore jeune, bien sûr, mais c'est un adulte. Et puis, il vient d'être marié en 1211. Il a été marié avec la fille du roi d'Espagne, du roi d'Aragon. En fait, c'est la jeune Sancy, qui est encore une petite fille. Hein, ils vont pas vivre ensemble, encore. Hein, à l'époque, ça prend davantage de temps. Mais enfin, bon, il est marié quand même. Il va apprendre à connaître sa femme, etc. Et puis, surtout, vous vous en souvenez sans doute, si vous suivez un peu les émissions, c'est qu'en 1213, il y a eu la célèbre bataille de Muret. Et là, il a vu devant ses yeux, parce qu'il n'avait pas le droit de participer à la bagarre, son père ne voulant pas prendre le risque de perdre son héritier. Donc, il a quand même vu la bataille devant lui et il a vu la défaite des Toulousains, et notamment la mort devant lui de son beau-père. Et donc pour lui, ça a été assez dur. Et il sait que la vie, c'est pas un amusement, quoi. Ça cogne, et des fois, ça cogne, ça va très mal. Et ensuite, après la bataille de Muret, comme ça craignait dur pour toute la dynastie toulousaine, pour tous les Raymond, les Toulousains, etc. Son père est parti se réfugier en Aragon et il a envoyé son fils se mettre à l'abri en Angleterre, à la cour de sa maman, Jeanne, puisque vous vous en souvenez, la maman de Raymondette, était Jeanne d'Angleterre, ce qu'il appelait lui la Jeanne Reine, la Reine Jeanne, qui était une des filles du roi d'Angleterre. Et donc, il est parti, il n'est pas parti à Londres, il est parti en Angleterre. À l'époque, l'Angleterre, c'était toute la bande ouest de la France actuelle, depuis la Normandie jusqu'à Bordeaux, vous voyez, à peu près. Donc, il est parti, disons, pour aller vite chez sa mère. Vous voyez, voilà. Mais après la bataille de Muret, son père a été excommunié une fois de plus. On compte pas le nombre de fois il a été excommunié par l'Église. Bon, il commençait à en avoir l'habitude. Et donc, ça lui est de plus en plus difficile dans sa lutte pour contre Raymond de Montfort, pour protéger le comté de Toulouse et retrouver ses droits, ça lui est difficile parce qu'étant excommunié, il y a des tas de choses que les gens n'ont pas le droit de faire, de l'aider, de lui porter secours, de l'accueillir, etc. Ou même de dire des messes pour lui. c'est assez difficile et Raymond VI de Toulouse fait tout ce qu'il peut pour amener le pape à changer de décision, à enlever l'excommunication de façon à ce qu'il se trouve tout à fait libre de ses mouvements et qu'il puisse revendiquer la lutte contre Simon de Montfort et en même temps, petit à petit, peut-être retrouver ses titres de comte de Toulouse. Et le pape, il a dû envoyer quelques chèques bancaires par là, en douce, vous voyez, pour convaincre le pape de réunir un concile, donc avec des évêques, pour dire, bon, qu'est-ce que vous pensez de la question? Est-ce que vous croyez que ce cher Raymond VI, on peut enlever l'excommunication? Bref, on va s'occuper de Raymond VI, on fait un concile, je vous rassemble tout le monde au printemps de 1216, à Rome, à Latran, et ça sera le quatrième concile de Latran.
CFM, Normidie-Pyrénées, la voix des pays au son du rock.
Don't you know me, Kansas City? I'm the new Berlin Wall. Try and tear me down. I was born on the other side of a town written to. I made it over the great divide.
Trying to tear me down.
Accord 2022, Michel Bonnet. Nous disions donc que pour régler les problèmes du comté de Toulouse, des relations entre Simon de Montfort et le comté de Toulouse et Raymond VI, le pape a décidé de mettre les choses à plat et d'en parler à un concile. En fait, ça c'est le point de vue des Toulousains, le point de vue de Raymond VI. Mais en fait, c'est un grand concile où il va changer des tas de choses dans l'Église parce que le pape pense qu'il faut absolument réformer l'Église, il y a trop de choses qui vont pas bien. Et donc, il veut reprendre en main. Les papes précédents avaient déjà essayé dans un précédent concile, à Latran aussi, le troisième, mais ça avait pas marché, en fait, ça avait pas eu les effets escomptés. Et là, il espère que ça va, on va pouvoir resserrer un peu les boulons un peu partout. Et donc, Raymond VI est prévenu de ce concile où il faut qu'il soit, et de suite il envoie un message à Raimundette, qui est à Poitiers ou dans la région de Poitiers, en lui disant dès que le temps va mieux, au printemps tu descends jusqu'à Rome, tu te débrouilles, tu fais attention, et on se retrouve à Rome. Moi j'y serai aussi avec le comte de Foix, avec d'autres chevaliers, le pape va s'occuper de nous, et il faut que tu sois puisque tu es l'héritier du comté de Toulouse. Voilà, donc Raymond VI part à Rome, il va être rejoint par le futur Raymond VII, par Raimundette. Raimundette, quand il entend ça, évidemment, il rêve. À 17 ans, un concile va s'occuper de moi, il va s'occuper de ma situation, le comte de Toulouse, c'est tellement important qu'il faut se réunir à Rome pour en discuter. Enfin, oui, il s'y croit un peu, quoi. Il bombe le torse. Si on parle de lui, c'est qu'il est important. Et donc, il descend au concile de Latran. Et là, alors, il est un peu désarçonné parce qu'il s'attendait pas du tout à ça. Lui, il croyait qu'un concile, c'était comme il en avait vu à Toulouse, à Poitiers, à Montpellier, 30 ou 40 évêques au maximum, quoi, quelques seigneurs par-ci, par-là, deux ou trois, et puis quelques juristes, et puis ça va, quoi. Et là, il arrive là-bas, il est complètement perdu. 3000 participants. Même pour nous aujourd'hui, une réunion de 3000 participants, ça fait quand même du bruit. 3000 experts, et il faut de la place, et puis ça se bouscule, etc. Puis surtout là, c'est tous des pontes, si on peut dire. Sur les 3000 participants, il y a 1200 évêques. C'est quand même pas rien. Il y a des pères abbés de très grandes abbayes. Il y a évidemment des représentants des rois, de l'empereur, des grands seigneurs. Il y a toute une armée de juristes pour aider les participants à réfléchir, à élaborer les directives qu'il faut faire, etc. Donc, oui, tout un monde, sans compter évidemment tous les gars qui sont là pour s'occuper des bons vieux évêques ou cardinaux. Il faut leur laver le linge, leur donner à manger, leur préparer le logement, enfin, etc. Oui, toute cette effervescence là-dedans. Et le petit Raimundette, il est perdu là-dedans. Même n'importe lequel d'entre nous serait comme ça, quoi. Surtout que tous ces gens-là, ils viennent de toute l'Europe. C'est-à-dire de la Grèce jusqu'à la côte atlantique, jusqu'à l'Angleterre, la Bretagne. Ils viennent depuis la Scandinavie jusqu'à la Sicile. Vous voyez un peu le brouhaha que ça représente. Et tous ces gens-là, ils parlent leur propre langue. Donc c'est une vraie tour de Babel, si on peut dire. Bon, il n'y en a pas beaucoup là-dedans qui parlent la langue d'oc. C'est bien évident. Et donc le Raimundette qui croyait que à peu près tout le monde parlait Languedoc, et il s'aperçoit que c'est extrêmement difficile de se faire connaître. Il faut parler latin. Bon, bien sûr, il parle latin. Il a fait des études et il parle latin, mais c'est pas quand même sa langue de tous les jours. C'est pas sa langue maternelle. Vous voyez, on est un peu moins à l'aise, etc., quoi. Et puis, il découvre en même temps que quand on lui dit alors que qui es-tu toi, ce jeune-là, tu es un curé de quelle paroisse ou des choses comme ça, il dit moi non, je suis le fils du comte de Toulouse. Ah bon, tiens, c'est où ça Toulouse? Personne sait où c'est trop perdu, tu vois. Et quand ils savent quelque chose, ils lui disent « Ah, mais t'as pas de chance, c'est là où c'est rempli d'hérétiques. Oh, ça doit être dur de vivre là-dedans. » Le Raimondet, il se demande ce qui lui arrive, vous voyez. Et il est vraiment désarçonné, quoi. Et alors, il va écouter ce qui se passe, il va suivre les cours, et là, il est encore plus perdu, parce qu'on s'occupe de tout, on parle de tout, sauf de Toulouse. Alors, petit à petit, il faut quand même qu'il s'habitue à ça, en latin, bien sûr, il est obligé quand même d'écouter, et il s'aperçoit qu'on parle de tous les problèmes de l'Église. La vie des évêques, les salaires, les dîmes, les taxes, les sacrements, la vie chrétienne, tout. Il s'aperçoit, il fait une découverte, c'est que l'Église est un énorme, excusez le mot, mais du point de vue de Raimondette, je crois que je peux l'utiliser, c'est un énorme machin, une structure phénoménale, une sorte de structure monstrueuse, voyez, qui s'occupe de tout sur toute l'Europe, quel que soit le pays, quelle que soit la langue, quelle que soit la situation sociale, et en plus, qui s'occupe pas seulement des réunions où comment on fait une procession, comment on dit la messe, là on le comprend très bien, c'est une vie sociale qui est organisée, etc. Mais qui veut aller jusqu'à le fond de la vie des gens, à tous les moments du lever au coucher du soleil, enfin du lever au coucher des individus, et même plus que ça, dans l'intimité de la famille, l'intimité des relations sociales, et jusqu'à... On pourrait dire jusqu'au cœur de l'individu, jusqu'à ce qu'il a dans la tête. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu crois ceci? Est-ce que tu crois cela? Tu dois croire ceci, tu dois croire cela. Vous voyez, donc, il s'aperçoit qu'il est devant quelque chose à laquelle il ne s'était pas du tout préparé, parce que sa culture n'était pas du tout comme ça, et pas du tout préparé à ça. Il s'aperçoit que devant cette énorme machine, pratiquement, il est complètement démuni. Le comte de Toulouse, malgré ses forces et tout le reste, jamais de la vie il va pouvoir surmonter tout ça. Bon, on fait une petite pause musicale pour se reposer. Corde 2022, Michel Bonnet. Donc nous sommes à Rome, au Concile de Latran, et Raimondet découvre tout d'un coup qu'est-ce que c'est que non seulement un concile qui est énorme, mais une église, un gros bloc monolithique, un genre de bulldozer qui arrive et qui trace sa route et qui est, disons, donne l'impression d'être capable de tout écraser. Et là, il sort donc avec le sentiment de se dire « Jamais on pourra, ça sert à rien de se battre contre l'Église, jamais on pourra la vaincre. Bon, à la rigueur, on peut au mieux résister, tenir le coup en attendant que ça aille mieux ou que ça change, mais en tous les cas, il faut essayer de résister. » Mais par-dessus tout ça, ce qui l'embête, ce qui l'ennuie, c'est que il attend toujours, tous les jours, il attend toujours que le comté de Toulouse vienne à l'ordre du jour, parce que c'est pour ça qu'il est venu, et c'est ça sa vie à lui. Les autres, que les évêques ils se marient ou pas, c'est pas son problème, si on peut dire. Vous voyez, bien que bon, les taxes changent évidemment, tout ça, mais enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Il est vraiment polarisé sur cette situation du comté de Toulouse et de son père, et qu'est-ce qui va se passer. Et voilà. Et il arrive enfin un jour, vers la fin du concile, après des jours et des jours de travaux, qu'on annonce que à l'ordre du jour, on va s'occuper aujourd'hui du comte de Toulouse et du comté de Toulouse. Alors de suite, il est tout heureux, il arrange sa cravate, si on peut dire, et attention, et ouvrons nos oreilles à ce qu'il va se dire. Et là, alors là, c'est la stupéfaction complète. Il est mis chaos sur sur place parce que les groupes de lobbying ont bien fait leur boulot, les groupes de pression ont bien fait leur travail, et en quelques minutes, c'est moi qui le dis, il a quand même fallu quelques heures, sans doute peut-être un jour ou deux, mais très rapidement, tout le monde est d'accord pour démolir Raymond VI. Tout le monde est d'accord pour dire on le laisse excommunier. Pas question de lever l'excommunication. Il est rejeté complètement de l'Église. Deuxième chose, ça va encore pire que ça, ça va encore plus loin, c'est qu'on le déshérite. C'est-à-dire qu'il, non seulement il est excommunié, mais il n'est plus comte de Toulouse. Le comté de Toulouse n'existe plus. Il n'existera à ceux qui le prendront par force. Il est ce qu'on appelle à l'époque, il a été mis en proie. C'est-à-dire que tout le monde a le droit d'essayer de se tailler un morceau là-dedans. Vous voyez, on est parti à la chasse, et évidemment, tout le monde sait que c'est Simon de Montfort qui prend le pouvoir. Chacun le sait. Même si Simon de Montfort est assez malin pour pas venir au Concile de Latran et ne pas avoir à répondre à peut-être des questions embarrassantes, etc. Lui, il dit, moi, je suis à votre service, je me bats, et à vous de donner des ordres. Il sait y faire. Mais, donc, le comté de Toulouse pratiquement donc disparaît, la dynastie des Raymond disparaît, puisque il est le père Raymond VI est déshérité, et du même coup le fils, puisqu'il n'a rien à recevoir. Hein. Et il y a pire que cela, si on peut trouver pire, c'est qu'il est condamné à vivre hors du comté de Toulouse, c'est-à-dire il est condamné à l'exil. Il est obligé de partir à l'étranger. Ouais, c'est quand même pas évident. On est bon, quand même, les évêques sont sympas, et le pape aussi. On lui donne une petite allocation, un RMI, vous voyez, avant l'heure, quoi. On lui donne une allocation, bon, sans doute pas pour faire des grandes choses, quoi. Et donc, il va être obligé de partir. Alors, vous voyez un peu, là, il faut se remettre à la place du Raimondet. Qui est, non seulement il est venu à Rome avec des illusions et il est obligé de les perdre, mais en plus, c'est que la situation est grave pour lui. Tout d'un coup, il a rien. Pour comprendre sa situation, il faut se mettre aujourd'hui dans le cadre d'un jeune de, mettons, 20, 25 ans, vous voyez, un jeune cadre qui a fait bac plus 4 ou 5, si vous voulez, qui est cadre, jeune cadre dans une grosse entreprise, à l'aérospatiale ou ailleurs, hein, et il a son avenir, il sait qu'il va grimper dans la hiérarchie, c'est super bien, il a déjà fait des emprunts pour sa maison, il s'est marié avec une jolie fille, il a peut-être des gosses qui ont commencé à arriver, bref. Et tout d'un coup, son patron lui dit « t'es licencié ». Pas d'explication, point fin. Vous voyez un peu la panique du gars qui se dit, mais comment, mais j'existe, j'ai des diplômes, je suis quelqu'un, j'ai fait du travail, j'ai inventé peut-être quelque chose, et tout ça, ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Et avec quoi je vais vivre? Avec rien, quoi, voilà. Avec quoi je vais payer mes traites? Avec quoi je vais payer ma vie? Avec quoi je vais faire vivre ma femme? Comment ma femme va réagir à cette annonce? Enfin, le chômage. Là, il faut, j'ai presque envie de dire que tant qu'on n'a pas fait soi-même l'expérience du chômage, avec toute la détresse que ça représente, on a du mal à comprendre le désarroi dans lequel le jeune Raimundet se trouve. Parce que nous, on en parle cool, tranquille, ça fait des centaines d'années en arrière, et on est un micro bien installé, tout ça, ça va quoi. Mais ça a été quelque chose d'absolument terrible. Et Je sais qu'il faudrait, en fait, si on veut être intime avec Raymond VII, il faut prendre le temps. On va pas le faire en silence à la radio. Bon, il est mort depuis longtemps, ça lui changera pas grand chose. Mais je veux dire que pour nous, il faut essayer de se rendre compte à quel point il a été écrasé, écrabouillé par ça. Et lorsque on va découvrir, en quelque sorte, que il s'est ressaisi, il s'est mis debout et il a décidé de se battre et de faire sa vie. Vous rendez compte, ça veut dire quelque chose. Quoi. Et donc, il faut vraiment se rendre compte de cela. Donc voilà pour aujourd'hui cette émission sur la moitié du Concile de Latran, le mauvais côté, je dirais en quelque sorte, et qui a complètement écrasé Raimundet. Et à la prochaine émission, je vous propose qu'on voit la suite, qu'on continue en voyant comment, pourquoi il s'est mis debout et comment il s'en est sorti. Je vous dis au revoir, à la prochaine fois.